chers téléspectateurs sur la télévision du Mahon Meir, et on va parler actualité aujourd'hui. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques semaines déjà, c'est l'approbation du gouvernement israélien pour la création d'un espace mixte au mur des Lamentations. Aux côtés donc, certains partis religieux ont dénoncé un affront aux traditions. On en parle avec le Rav Uri Cherki. Shalom.
Shalom.
Alors jusqu'à présent, la zone homme et la zone femme de l'esplanade du Kotel a été gérée par les orthodoxes. Pourquoi devrions-nous avoir un autre espace supplémentaire, et pour répondre à quel besoin ?
Eh bien, en fait, c'est absolument inutile parce que cela crée un problème supplémentaire. Vous savez que le Kotel, c'est le lieu de rencontre du peuple juif. À partir du moment où vous avez un kotel pour tel juif et un kotel pour d'autres juifs, eh bien vous posez un problème de séparation, vous créez en fait deux peuples. Bon, ça n'en est pas encore là, mais c'est la propédeutique que cela défend. Et donc, s'il y a des solutions à trouver, elles doivent se trouver au sein d'un kotel unique, puisque le peuple juif est un peuple unique.
Bah, certaines personnes vont dire justement la séparation homme-femme, c'est une séparation.
Oui, alors la séparation homme-femme est traditionnelle dans le peuple juif, dans les synagogues et même dans le temple de Jérusalem. Donc pourquoi ne pas la continuer ? Nous sommes des juifs après tout. Mais quand nous parlons de courant dans le judaïsme, c'est là que l'on, en fait, que l'on cache en fait une sorte de brisure, de faille dans l'identité originelle du peuple d'Israël.
Ce serait de la provocation ou ce serait une vraie revendication ?
Disons, on peut dire que les mouvements réformés et conservateurs n'ont pas été sionistes pendant longtemps. Ils se le sont devenus il y a quelques dizaines d'années. Et ils cherchent leur légitimation au sein de l'État d'Israël, ce qui est assez nouveau, pourrait-on dire. Et cela vient en fait d'une crise, qui est le fait qu'ils sentent que peut-être leur avenir en Gola n'est pas aussi bien assuré qu'avant. Et donc, ils cherchent une emprise, un foothold, si vous voulez, en Eretz Israël. Actuellement, la société israélienne n'a pas donné de légitimation au mouvement réformé. Au niveau de la loi israélienne, le seul judaïsme officiellement reconnu par la loi et le judaïsme orthodoxe. Donc, on peut dire qu'on peut comprendre ces tentatives, mais on peut comprendre également que la société israélienne, dans son ethos collectif, refuse ce genre d'action. On peut appeler ça une provocation, si vous voulez, mais ce n'est pas ça le problème.
Donc, dans ce que vous dites, Rav, c'est vraiment un problème et un affront aux valeurs juives.
Disons comme ça, c'est une sorte de divergence, de bifurcation par rapport à la tradition. La tradition d'Israël a toujours été fidèle à la halakha, a toujours été fidèle à l'idée que le judaïsme est révélé. Et on peut, à partir du moment où l'on fonde une autre mouvance, même si elle a une apparence extérieure traditionnelle, en fait, il s'agit de tout à fait autre chose.
C'est une fidélité ou c'est, on va dire, on peut se permettre d'évoluer ? Est-ce que ce serait une évolution ?
Alors, il y a des évolutions intérieures de la halakha elle-même. Vous savez bien qu'au sein même du monde que l'on appelle orthodoxe, il y a des mouvances extrêmement différentes, mais elles se retrouvent toutes sur un point commun, qui est justement la révélation et la fidélité à ce qu'on appelle la loi orale, même si elle comporte en elle-même la possibilité d'une évolution.
Alors,
on pourrait dire d'ailleurs quelque chose d'assez paradoxal, c'est que justement la pression des réformés a amené une sorte de teshuvah du monde haredi, qui brusquement se dit, tiens, il faudrait quand même que ce soit le grand rabbinat d'Israël qui gère tout ça, y compris les conversions, ce qui est quand même un mouvement de teshuvah remarquable.
Alors, Richard, justement, je voudrais généraliser un peu, faire digression. D'où vient cette séparation homme-femme et comment cela se passait-il au temps du premier temple ?
Eh bien, au temps du premier temple, c'était tout à fait différent. Vous savez que la Shekhina était présente. Or, quand la Shekhina est présente, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de bassesse dans la vie intérieure, en tout cas pas dans le lieu de la révélation. Ce n'est qu'à l'époque du deuxième temple déjà, au temps des hommes de la grande assemblée qui comportaient encore des derniers prophètes parmi eux, qu'on a décidé que lorsqu'il y a des grands rassemblements dans le temple de Jérusalem, on fait une séparation. Je tiens à rappeler que cette séparation se faisait dans les moments de prière ou de joie, ou alternativement de deuil, c'est ce que disent les prophètes, le prophète Zacharie entre autres, et non pas lors de la lecture de la Torah par le roi d'Israël lors de Hakel, parce que lorsque la Torah est lue, effectivement le Yetzer Hara n'est pas présent et donc on peut se concentrer, tandis que quand il y a un élan, si vous voulez, de sentimentalité qui est celui de la prière, alors c'est là que peuvent intervenir des troubles dans la prière. Vous savez que il y a chez nos frères séfarades, il y a une très belle coutume qui est que lorsque la Torah sort, on enlève le rideau entre les hommes et les femmes. Et puis à partir du moment où la prière reprend ses droits, alors on remet le rideau en place.
Quel est le statut du Kotel actuellement? On le considère comme le lieu le plus saint du judaïsme, est-ce vraiment le cas au niveau là?
C'est totalement faux. Je pense qu'il est bon de remettre les points sur les i. Le lieu le plus saint du judaïsme, c'est l'esplanade du temple et le saint des saints, même si le temple n'est pas construit. C'est une évidence. Ce qui fait la sainteté du Kotel, c'est que c'est un mur de soutènement du temple. C'était le seul lieu où les juifs avaient le droit d'entrer lors de la domination des goyim. Aujourd'hui, on peut dire que le Kotel a pris le statut, au niveau halakhique, de la plus grande synagogue du peuple juif. C'est en fait un lieu qui est entièrement synagogal, c'est un lieu de rencontre, et de ce point de vue-là, il est extrêmement important pour notre peuple.
Ravo, cherchez-vous qui aimait être précis dans vos propos, quelle est la différence entre un lieu sacré et un lieu saint, si on doit parler en français?
Disons que le terme de sacré n'a pas sa place dans le judaïsme. Dans le sacré, vous avez cette idée de quelque chose de mystérieux. Le mystère, qui est tellement choyé, vous savez, par la tradition chrétienne, implique quelque chose d'un peu terrorisant et d'un peu irrationnel. Tandis que quand on parle de saint, on parle de quelque chose de tout à fait rationnel, c'est la relation morale totale entre l'homme et la divinité.
Dernière question à Wushaki. Finalement, on se chamaille pour défendre les intérêts du Kotel, zone mixte, pas zone mixte, et le monde du temple dans tout ça. Qu'en est-il en définitive? C'est censé être l'essentiel de notre démarche. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Doit-on le laisser abandonner et en statu quo encore longtemps, ou devons-nous y monter pour protester et revendiquer cet endroit au effort?
Disons, monter ou ne pas monter est un problème de halakha, et à mon avis, c'est tout à fait secondaire. Le problème est une question ici de droit. Et il y a ici un mensonge qui est colporté par la communauté internationale, qui est que ce lieu serait un lieu saint de l'islam. Alors que l'islam a sanctifié ce lieu parce qu'il était le lieu saint des juifs. Et je pense que si l'on veut parler de paix et d'harmonie entre les peuples, on ne peut pas baser la paix sur un mensonge. Il faut d'abord rétablir la vérité. À partir du moment où le monde musulman sera prêt à reconnaître la nature véritable de ce lieu, c'est alors que le dialogue pourra s'engager.
Mais si physiquement on ne revendique pas ce lieu, est-ce que c'est de quelle manière on peut...
Ce lieu est tout à fait revendiqué physiquement, étant donné qu'il est sous souveraineté totale de l'État d'Israël, même si des droits ont été accordés au Waqf jordanien. En tout cas, ce lieu est notre lieu à nous. Et donc, le droit légal de tout juif et de pouvoir y entrer, de faire la prière. Si son rabbin lui interdit, c'est un autre problème. Mais ça, c'est son problème personnel. Au niveau national, c'est le lieu du peuple d'Israël.
Pendant cet été 2017, on a assisté à une série d'événements autour du monde du temple qui ont évidemment eu un impact, comme d'habitude, au niveau international. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé des décisions gouvernementales?
Je vous retiens à vous rappeler quelque chose de très important, c'est que les musulmans actuellement désignent le monde du temple non pas du terme qui était le leur jusqu'à présent, Haram et Sharif, le lieu saint, mais ils l'appellent El-Aqsa, c'est-à-dire du nom de la mosquée qui est tout à fait à l'extrême du monde du temple. Ils revendiquent le nom d'El-Aqsa comme si c'était une mosquée pour tout cet espace, ce qui est encore un nouveau mensonge. Les décisions gouvernementales suppliant les musulmans de vouloir bien y entrer malgré tout frise le ridicule. Je pense que ce n'est même pas la peine d'expliquer pourquoi.
Merci beaucoup Ravo Rucherki pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à nos pages et de commenter nos vidéos et de proposer éventuellement vos sujets, les sujets que vous voulez qu'on traite ici. Merci beaucoup Ravo Rucherki.
Shalom.